Interview. 1. Interview.
Ok, le beurre.
Interview.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio de RDWA, Marie Chéron, salariée de l'association parisienne KD, qui s'occupe de dossiers débats sur l'environnement et les questions sociales. Marie Chéron vient de participer aux rencontres de l'écologie au quotidien en donnant une conférence sur le thème « Que fait-on face au changement climatique ?» Marie Chéron, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'une association qui s'occupe de dossiers débats ?
Dossier et débat pour le développement durable. 4D est né dans les années 90, après le sommet de la Terre de Rio, qui s'est tenu en 92. Et nous avions pour but de suivre les engagements qui avaient été pris par tous les États en faveur du développement durable et de soutenir les initiatives notamment prises par les collectivités locales. Et donc, on avait mis en place des débats qui avaient lieu une fois par mois. Et puis, il y avait un centre de ressources sur le développement durable parce qu'à l'époque, finalement, on en parlait peu. Quand je dis nous, moi, j'y étais pas encore. Hein. Et puis, la problématique du développement durable a évolué. Parce que de plus en plus, on en parle. La prise de conscience est là. Et donc, depuis quelques années, nous avons fait évoluer nos activités. Et aujourd'hui, on se définit davantage comme un think tank sur la transition écologique et sociale. On essaye d'animer avec nos réseaux ressources, puisque nous sommes 2 salariés et une 20aine d'administrateurs, et puis tout un tas de partenaires. Aujourd'hui, on cherche à s'associer avec différents acteurs qui travaillent dans les champs de l'environnement, mais qui travaillent sur les questions sociales, qui travaillent sur l'éducation populaire, etc., pour animer une réflexion sur les actions à engager dans la transition, pour changer maintenant. Puisqu'on ne peut plus se permettre de constater les faits, on ne peut plus se permettre de mesurer des risques, mais on a besoin d'agir.
Vous avez parlé d'être un think tank. Ouais. Avez-vous l'impression d'avoir une influence ?
Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, l'histoire le dira. Ça dépend ce qu'on vise.
Eh bien, revenons donc au sujet sur qu'est-ce qu'on fait face au changement climatique. Alors peut-être faire un petit état des lieux, où est-ce qu'on est de ce changement climatique? Il y a même des gens qu'on appelle les climato-sceptiques qui en doutent. Où en est-on des dérèglements climatiques?
Alors, je voudrais quand même revenir sur le rapport du GIEC, donc, qui a été publié entre septembre 2013 et septembre 2014 en plusieurs volets, puis une synthèse. Ce rapport est le fruit d'un travail de scientifiques, d'environ un peu plus de 1000 scientifiques, qui viennent de tous les pays et qui proposent une synthèse des faits climatiques, donc de la climatologie, qu'est-ce qu'on observe en termes de changement climatique. Donc là, c'est clair, il y a un réchauffement climatique de l'ordre de 0,85 degrés Celsius à l'échelle de la planète, donc ça c'est un changement global, depuis 1850. Ce réchauffement donc de 2 degrés, finalement, a des réalités qui peuvent varier d'un endroit à l'autre du globe, c'est-à-dire que les territoires ne se réchauffent pas de la même manière que les océans. Et ensuite, en fonction des différents territoires, on peut avoir des augmentations qui sont variables. Par exemple, les pôles Nord et toute la région Sibérie, etc., se réchauffent plus vite que certains autres endroits de la planète, plus que chez nous, par exemple. Donc, en fait, ce 2 degrés, c'est vraiment une moyenne. Donc, ça, c'est l'effet, le 0,85 degrés, c'est une moyenne, et le 2 degrés qu'on utilise symboliquement, c'est une moyenne. Le 2 degrés, on l'utilise pour fixer une limite, en fait. Les scientifiques nous disent qu'il faut limiter le réchauffement en deçà de 2 degrés. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des risques d'emballement climatique, etc. Donc du coup, dans le premier volet de ce rapport, il y a des scénarios d'évolution du climat. Et ils ont fait des scénarios, dont un qui est une méthode un petit peu nouvelle par rapport au précédent, où les scientifiques ont dit, on va faire un scénario qui dit, tiens, on fixe comme objectif de rester en deçà des 2 degrés. Et ensuite, on voit comment on y va. Et du coup, ce dernier rapport dit, oui, c'est possible de rester en deçà des 2 degrés, mais globalement, on ne sait quand même pas comment faire. Aujourd'hui, on est très loin du compte. Et il faudra, si on souhaite limiter ce réchauffement, modifier en profondeur nos modes de vie. Et après, le rapport ne dit pas comment on fait. Donc ça, c'est sur les faits. Autre chose peut-être, sur tous les scénarios qui existent, comme le réchauffement, si vous voulez, il y a un effet d'inertie. C'est-à-dire que les gaz qu'on émet aujourd'hui ont un impact, mais ont décalé dans le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les courbes, globalement, tous les scénarios nous emmènent sur un réchauffement quasi similaire. Et les courbes commencent à diverger à partir de 2050. Ça veut dire que quand on parle de climat, ce qu'on fait aujourd'hui, ça aura un impact à cet horizon-là. Mais ça ne peut pas avoir un impact maintenant. Et les effets qu'on voit, les perturbations du climat que l'on observe aujourd'hui, sont les effets des actions passées. Voilà. Ces impacts-là, c'est un autre des volets du rapport du GIEC. Quels sont les impacts concrets du réchauffement climatique ? Les impacts sont déjà visibles. Ils sont déjà visibles un peu partout sur Terre. Je pense qu'on a suffisamment d'événements dans l'actualité qui le démontrent. Ce sont des événements extrêmes, ce sont des inondations, ce sont des sécheresses, etc. Et il y en a eu, que ce soit aux Philippines, en Russie, aux États-Unis, plus aucun pays n'est épargné. Alors il faut prendre effectivement avec des pincettes le lien entre les événements extrêmes et le changement climatique. Les liens ne sont pas toujours directs, il faut faire attention. Mais le GIEC pointe bien que les bouleversements climatiques vont augmenter la fréquence de ces événements extrêmes. Ou voir la nature de ces événements. Autre forme d'impact, c'est avec le réchauffement, la montée des eaux. On peut s'attendre à une augmentation du niveau de la mer allant jusqu'à 6 mètres avec un réchauffement de 3 degrés, qui est la voie vers laquelle on s'oriente à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on est sur, si on continue comme maintenant, on va sur du 3 à 4 degrés, donc avec des impacts que l'on ne mesure pas et que l'on ne maîtrise pas.
Et donc, ouais, avec une montée des eaux de 6 mètres, un certain nombre de zones seront immergées, dont des zones littorales qui sont en général assez peuplées.
Exactement. Donc, si vous prenez, par exemple, si on reste à l'échelle de la France, il y a le nord, vers le nord Pas-de-Calais, qui peut être soumis à des risques de submersion. La région Aquitaine, la région Languedoc. Et après, à l'échelle de la planète, vous prenez les gros foyers de population aujourd'hui qui sont en plein boom, qui sont le sud-est asiatique, où une large partie des populations sont regroupées sur les zones côtières, dans des grands ports. Vous prenez la Chine, vous prenez le Vietnam. Juste pour donner un exemple, le Vietnam, ce serait 10% de son territoire qui serait sous l'eau, avec notamment les deltas qui seraient menacés, les deux grosses villes principales.
Manhattan, New York.
Voilà, Venise sous l'eau. La Belgique sous l'eau, enfin, voilà, pour donner quelques exemples. Ouais. Et puis après, il y a la problématique des petites îles. Également, les petites îles qui, elles, militent au niveau international pour que l'on limite le réchauffement à 1,5 degré en étant plus exigeant puisqu'elles se sentent d'autant plus menacées par cette montée des eaux et par la nécessité de devoir à un moment donné se déplacer et migrer. En termes d'impact, les projections montrent que le réchauffement climatique pourrait devenir un des principaux facteurs de migration. Et avec un phénomène de réfugiés climatiques à l'échelle de la planète, on pourrait s'attendre à devoir recueillir 200 millions de réfugiés climatiques à horizon 2050. Ces chiffres, pour moi, j'ai un peu du mal à les manier. Ils ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais ils montrent la masse des problématiques. Un autre exemple qui est assez marquant, c'est au Bangladesh, toute la zone qui est en dessous de Dhaka, où on est sur des niveaux d'altitude qui sont très très faibles et qui sont des zones qui sont déjà régulièrement soumises à des submersions, à des inondations. Et là, on a des foyers de population qui sont immenses. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ces populations-là.
On peut pas faire des digues de 7 mètres de haut, par exemple.
Oui, on peut chacun s'enfermer dans un bunker. Je ne sais pas si c'est la solution.
Quel autre type d'impact ce dérèglement climatique pourrait amener ?
Alors oui, parce que ça, c'est les impacts, j'ai envie de dire, un peu macro. Il faut bien comprendre que les impacts du changement climatique, c'est des chaînes, c'est des chaînons. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, si on reprend l'augmentation du niveau de la mer, c'est comment, derrière, quels vont être les impacts sur l'agriculture, par exemple. Vous avez une modification des conditions de production, mais une modification de la biodiversité qui va elle-même avoir un impact sur la capacité de production, qui va avoir un impact sur ce qu'on mange, qui va avoir un impact sur notre santé, qui va avoir un impact sur nos activités économiques. Ça se fait en chaîne. Vous prenez les phénomènes d'allergie, puisque celui-là, je le connais bien. Une augmentation de la température joue sur les cycles des arbres, leur pollinisation. Donc quand vous avez un réchauffement ou des températures qui, comme cette année, par exemple à Paris, nous on n'a pas eu de gel. Je crois l'autre jour, on est passé en dessous de zéro et ce n'était pas arrivé depuis plus d'un an. dans ces cas-là, si vous voulez, ça perturbe le cycle de pollinisation. Et du coup, ça a un impact sur les personnes qui sont allergiques. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques, puisqu'en fait, les pollens sont à certains moments plus agressifs. Et donc du coup, pour les personnes allergiques qui auparavant pouvaient être allergiques au pollen pendant 3 ou 4 mois de l'année, deviennent allergiques pendant 6, 8 mois. Donc on avait des phénomènes d'allergie à l'automne, ce qu'avant on n'avait pas. En termes de santé, après, il faut voir les impacts que ça a sur les personnes. Donc finalement, on voit que ça touche les personnes individuellement. On passe d'un phénomène global aux personnes.
Il y a, sur les murs de mon petit village de la Drôme, il y avait une publicité pour un film, Ours polaire, avec ou sans glaçons. Donc, qui résumait bien aussi certaines questions qu'on peut se poser sur l'avenir de certaines espèces qui seront menacées parce que leur biotope sera tout simplement en voie de disparition.
Oui, la biodiversité a été divisée par deux en un siècle déjà, et on est face finalement à une extinction, à un phénomène d'extinction de la biodiversité. Le réchauffement est tellement rapide que toutes les espèces n'ont pas les capacités de s'adapter. Et en fait, c'est la rapidité de ces changements qui met à mal la survie des espèces.
Et des espèces végétales aussi, hein. On parlait juste avant du charme qui disparaît de certaines contrées car il n'est plus adapté au climat.
Oui, on a certaines, ce que je vous disais sur l'agriculture, c'est-à-dire que l'augmentation de quelques dixièmes de degrés peut modifier la façon dont les plantes vont se développer. Donc ça peut modifier les espaces où ils vont se développer. Donc hier, Yann Nouvel, qui était des amis de la Terre et qui habite sur le territoire, mentionnait les impacts que pouvait connaître le territoire ici, a dit les impacts qu'on pouvait avoir, et il questionnait l'agriculture. Il reparlait de la clairette. Alors avec quelques degrés de plus, avec un degré, voire deux degrés de plus, est-ce qu'on aura toujours de la clairette? Et les études montrent qu'il pourrait y avoir de la clairette parce qu'on pourrait, par exemple, s'adapter au changement climatique en montant les cultures, en les mettant un peu plus haut. Est-ce que ce sera possible ou viable? Bon. Les études montrent que pendant un premier temps, ça peut améliorer les rendements de ces cultures-là. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre. Il mentionnait aussi également, comme vous dites, le fait qu'on ait des changements dans les espèces d'arbres, donc qui peuvent migrer. Donc par exemple, on a le charme qui disparaît progressivement de certains endroits et qui migre. Et si on regarde finalement à l'échelle d'une carte européenne l'emplacement des zones viticoles, on remarque que les zones viticoles ont tendance à remonter sur la carte. Donc est-ce que la clairette sera produite ailleurs qu'a dit? Je ne sais pas. Peut-être la clairette va-t-elle migrer?
Vraie tragédie.
Une vraie tragédie. Non, mais pour les zones viticoles, oui, c'est assez marquant de voir les cartes se déplacer vers le nord.
Vous disiez tout à l'heure qu'au-delà de 2 degrés, même les experts ne savaient pas ce qui pourrait se passer. Mais on peut déjà constater qu'au niveau des cycles de l'hygrométrie, il y a déjà pas mal de changements. S'il fait plus chaud, il y aura plus d'évaporation, donc plus de précipitations. Voire dans certains pays, ce sera le contraire, des endroits qui seront peut-être plus déserts.
Oui, les impacts sont très 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 différenciés. Et justement, on va vers un accroissement des inégalités, notamment sur l'eau. En fait, vous avez des zones qui vont s'assécher, du genre vous prenez la bande sahélienne, ça sèche. Par contre, sur des territoires qui sont en dessous, vous pouvez avoir des augmentations de précipitations. Mais il ne faut pas le voir simplement en termes de volume, plus ou moins, il faut le voir en termes de perturbation des cycles. Donc par exemple, vous avez des zones africaines où ils étaient habitués à avoir une saison des pluies et une saison sèche, et en fait, les périodes se décalent et sont beaucoup moins prévisibles. Et du coup, l'impact sur les activités humaines est extrêmement fort. Par exemple, sur les activités agricoles, les capacités des populations à anticiper les saisons des pluies, à pouvoir adapter tout simplement leur façon de produire aux nouvelles modalités, est particulièrement difficile parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils de prévisibilité par rapport à ça. Vous avez des zones du type, sur certaines zones en Russie, où les capacités de production agricole pourraient être augmentées. Mais c'est le cas en France, donc là on prenait l'exemple de la clairette qui peut avoir un meilleur rendement au moins dans les premiers temps. La semaine dernière j'étais en région centre, ou de même qui est une région assez agricole, et qui mentionnait qu'effectivement pareil, eux dans un premier temps, leur capacité de production agricole pouvait être améliorée. Mais est-ce que cette amélioration dure dans le temps? Ça c'est pas sûr, vu qu'on a d'autres réactions en gène, du type la modification de la biodiversité, dont vous pouvez avoir des espèces, des insectes, qui modifient leur façon de faire, et avoir également le développement de maladies, par exemple sur la vigne, qui vont se développer plus fortement avec quelques dixièmes de degrés de plus. Donc dans un premier temps, le rendement va peut-être être amélioré, et puis derrière vous pouvez avoir plus de maladies. Comment est-ce que vous y répondez? Et toute la question elle va être de savoir s'adapter à ces changements, à des changements qui arrivent de manière rapide et qui sont peu prévisibles, qu'on a du mal à anticiper.
Alors si je peux me permettre de vous poser une question, effectivement cet automne a été particulièrement doux et l'hiver est venu très tardivement. Et les mouches qui disparaissent normalement quand il fait froid étaient là jusqu'à très tard. Alors elles se réfugiaient dans les maisons, mais quand même, on a eu des mouches vraiment très tard. De même que, je ne sais pas si on faut imputer ça au changement climatique, mais ici, les sapins sont attaqués par les chenilles processionnaires. Oui. Même chose, est-ce que c'est parce que c'est doux qu'elles ne meurent pas l'hiver et qu'elles se développent d'autant mieux sur nos sapins? Question.
D'après ce que je sais, les chenilles processionnaires, effectivement, quand ils gèlent, c'est mieux. Elles ne se reproduisent pas.
Voilà, et dans les classes, ça se multiplie. Là, je ne sais pas, vous qui êtes parisienne, si vous avez eu le temps de visiter notre beau pays, mais regardez les sapins, il y en a deux partout maintenant.
Ouais, ouais. Mais mon médecin me disait la semaine dernière que les chenilles processionnaires étaient aux portes de Paris et qu'elles allaient bientôt débarquer. Et c'est des chenilles urticantes.
Urticantes, et surtout, elles finissent par tuer l'arbre quand même. Donc,
Mais on a ce type d'impact, mais c'est pareil avec certains types de moustiques qui sont particulièrement attaquants, ou vous avez, de manière un petit peu plus directe, prenez certains pays d'Afrique où certaines populations vivent en altitude. Vous prenez une ville comme Nairobi, par exemple, qui est en altitude. Donc, comme elle est en altitude, il y a moins de moustiques et donc moins de risques de palus. Avec l'augmentation de la température, vous avez un risque de remonter des moustiques et donc de retour du palu sur des zones qui n'en connaissaient pas avant. Là, attention, je fais beaucoup de raccourcis, hein. Mais on voit les réactions en chaîne que ça peut avoir et les impacts, donc du coup les risques pour la santé. Si on revient sur les risques pour la santé, il suffit de regarder les impacts qu'a pu avoir la canicule en 2003. Ça nous interpelle en fait sur notre capacité à pouvoir anticiper, à pouvoir s'adapter, mettre en place des systèmes d'organisation qui permettent de parer à ces risques. Si vous prenez deux territoires et deux catastrophes, deux événements extrêmes, vous prenez Sandy à New York, je ne sais plus le nombre de victimes, ou Katrina aux États-Unis, le nombre de victimes n'est rien du tout par rapport à une catastrophe aux Philippines. En termes de nombre de victimes. Pourquoi ? Parce qu'une catastrophe naturelle qui arrive sur un territoire qui, mine de rien, dispose de dispositifs d'alerte, de secours, etc., ça n'aura jamais le même impact que sur un territoire qui n'est pas préparé. Et du coup, là, le défi pour l'humanité, il est, de mon point de vue, énorme. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à ces impacts. Là, je prends l'exemple des événements extrêmes, mais ça peut être beaucoup plus doux, comme on parlait sur la chenille ou sur les allergies ou autres. Et du coup, le défi de connaissance, de compréhension, et d'organisation, de coopération entre les individus, les groupes sociaux et les sociétés est énorme. Et il est inédit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour ça que nous, on a tendance à dire que c'est la solidarité obligatoire. Enfin, puis dans l'histoire du développement, on lutte contre la pauvreté, contre la malnutrition, etc. Mais la pauvreté et la malnutrition, c'était des phénomènes qui étaient soit localisés, soit ciblés. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est pauvre à un bout de la planète, ça n'impacte pas sur l'autre.
Ça se voyait moins, quoi.
Ça se voyait moins. Et là, quelqu'un qui émet à un bout de la planète, ça a un impact sur l'ensemble de la planète. Et donc c'est pour ça qu'on parle de solidarité obligatoire. Et d'autant plus que vous comprendrez bien que sur ces chaînons d'impact, tout le monde n'a pas la même capacité à s'adapter. Et les pays et les populations, tout simplement les plus vulnérables, seront les plus impactés. C'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les impacts de sécheresse, de catastrophes, etc., sont essentiellement situés dans les pays les plus vulnérables. L'Afrique subit un certain nombre déjà d'impacts avec des phénomènes de désertification, etc. Donc, il y a vraiment un défi de coopération et de connaissance qui est inédit.
Bon, le constat pourrait être terrifiant si on était terrifiable. Avant de passer à des considérations peut-être plus concrètes, vous disiez tout à l'heure qu'on ne savait pas ce qui allait se passer au-delà de 2 degrés, et la météo, et toute cette incroyable machinerie complexe qu'est la Terre et son biotope. On ne sait pas très bien ce qui va se passer au-delà de 2 degrés. Et vous connaissez ce fameux film « Le jour d'après ». La thèse, c'est que le Gulf Stream, qui est né d'un différentiel de température qu'on peut retrouver dans certains océans, pourrait être annulé, puisqu'il n'y aurait plus de différence entre le chaud et le froid, et s'arrêterait de fonctionner, s'arrêterait de couler tout au long de la planète, et pourrait amener une période glaciaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce sont des hypothèses, ce sont des théories. Effectivement, quand on regarde les films qui passent sur nos écrans, un certain nombre, on se rend compte que c'est quand même pas mal catastrophiste. Et finalement, notre vision du futur, elle est catastrophiste, de fait. Je crois qu'un défi tel que le changement climatique, où tout d'un coup on est face à des incertitudes qui sont énormes, ça va super vite pour nous, nous fait peur. Et donc, du coup, on a un imaginaire qui est largement noirci. Et nous, on a pas mal constaté ça, c'est-à-dire que les gens, face à ça, se replient, ont tendance à se replier, peuvent avoir tendance à nier la réalité ou à s'embarquer dans des hypothèses les plus noires possibles, les plus catastrophistes, etc. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut réouvrir l'imaginaire sur le futur et de montrer que oui, on a encore une chance, et c'est ce qui est dit dans le rapport du GIEC, oui, on a encore une chance de rester sous les 2 degrés, et je pense qu'il faut rester dans cette optique-là, même si c'est un parti pris, je le réaffirme. Oui, on peut rester sous les 2 degrés, et je pense que c'est important de le dire. Et donc, on peut réussir le pari climatique, même s'il va falloir s'adapter, même s'il y aura des impacts. Chacun peut réussir sa vie au XXIe siècle, et les sociétés peuvent réussir à s'adapter et à maîtriser les impacts des changements climatiques. Il y a besoin de réaffirmer ça. Ça veut dire que le pari, il est immense. Il est immense pour les politiques. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des grosses attentes vis-à-vis de la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année, la conférence climat internationale, parce qu'il s'agira de prendre un accord et que les États s'accordent sur des objectifs qui nous mettent dans une trajectoire globale des 2 degrés. On n'y est pas encore. Mais voilà. Et puis, il faut que toute la société se mette en mouvement, puisque même si les États prennent des décisions ambitieuse, on va dire, les États, ils font jamais que signer sur un papier et décréter des politiques nationales. Ça ne garantit pas le résultat. Et aujourd'hui, c'est jusqu'aux citoyens, les acteurs de la société civile, les collectivités territoriales, les acteurs économiques qui sont responsables de la mise en œuvre concrète, finalement. La responsabilité face au changement climatique, elle est largement partagée. Nous avons tous un rôle à jouer. Et l'enjeu, donc, c'est cette mise en mouvement de la société de chacun. Et c'est cette mise en mouvement qui va faire évoluer nos pratiques, nos organisations, nos modes de vie. Quelque part, on est dans une période où on a un défi énorme. Effectivement, c'est flippant. Donc, on peut croire qu'on va avoir une glaciation de la Terre. On peut
ou une émission massive de méthane qui se libérerait du pergélisol, voire des profondeurs sous-marines et qui nous gazerait en 2 minutes.
Bien sûr.
Ça, c'est un autre scénario catastrophe.
Il y a plein de scénarios catastrophes, mais il ne faut pas parier dessus.
Alors, il ne faut pas parier dessus. Néanmoins, pensez-vous...
Il faut être lucide. Hein.
Faut être lucide, c'est possible. On peut se mettre à voir tout en noir. Néanmoins, un facteur qui pourrait quand même être aggravant, c'est cette nécessaire prise de conscience de tous, et des États, et des individus, et de toute la chaîne des acteurs économiques et sociaux. Mais a-t-elle lieu ? Et va-t-on effectivement avoir le courage de prendre ces mesures ? Parce que pour l'instant, ça fait un bout de temps qu'on dit qu'il y a le feu à la chaumière quand même.
Oui, effectivement. Le discours, les constats, les analyses, même si elles se sont très largement étoffées depuis une vingtaine d'années, finalement, depuis le début de la Convention climat, c'est la même chose. Le GIEC, rapport après rapport, confirme des éléments. Mais cette prise de conscience, elle a lieu. Je crois franchement qu'il faut observer qu'elle est réelle. Moi, quand j'étais au lycée ou au collège, je ne savais pas ce que c'était que le changement climatique. On en parlait un petit peu, mais globalement, je n'avais pas trop d'idées. Aujourd'hui, quand on va dans des lycées ou des collèges, on intervient, les enfants ont une conscience de ce phénomène, de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus affirmée. Donc oui, on en parle, et les médias aujourd'hui parlent du climat. Après, effectivement, dans ma position, je trouve qu'on n'arrive pas forcément toujours à bien en parler, parce que oui, on utilise les 2 degrés, parce que par exemple, quand ça a été Copenhague en 2009, on a beaucoup insisté sur le fait que les pays occidentaux devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par 4. Donc, par exemple, pour la France, c'est par 4. À l'échelle du monde, c'était par 2. C'était les objectifs. Et donc, du coup, on insistait sur des chiffres. Il faut faire moins 30%, moins 20%, moins 40%, etc. Et ça ne parle pas aux citoyens. C'est pour ça qu'il faut arriver à ce que chacun en prenne conscience individuellement et que nous, acteurs de la société civile, on voit en quoi ça impacte nos actions. Et donc là, il faut parler aux gens de ce qui les concerne. C'est-à-dire, le changement climatique, ça veut dire quoi par rapport à vos transports ? Puisqu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est même les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est principalement les consommations d'énergie. Consommation d'énergie, c'est quoi ? Votre transport, c'est le logement, c'est l'alimentation, la façon dont c'est produit, depuis la fourche jusqu'à notre assiette, jusqu'à notre fourchette, la façon dont on traite nos déchets, la façon dont on produit, c'est ce qu'on consomme. Donc en fait, il faut que sur chacun de nos usages, de nos pratiques au quotidien, sur notre mode de vie, on réfléchisse à ce qu'on fait pour en mesurer mieux les impacts et améliorer tout cela. Mais ça va dans le sens aussi d'un mieux-être, je crois. On remarque quand même que dans notre société, on est en crise. Donc finalement, notre modèle de développement a montré largement ses limites. Et ça, c'est pareil, hein, on en parle depuis 30 ans, 40 ans, voire plus. Donc Il y a une nécessité aujourd'hui dans la société de redonner du sens aux choses et d'éviter de gaspiller et d'aller à l'encontre des valeurs et de notre capacité à fournir aux générations futures des moyens de vie dignes.
Vous restez optimiste, je vois bien cela, c'est beau.
Mais il faut travailler pour rester optimiste. Ça fait partie de notre responsabilité.
Quand on voit effectivement que les Américains continuent à massivement investir dans le gaz de schiste et donc dans l'utilisation des produits carbonés, donc vous pouvez quand même douter.
Mais on peut douter, effectivement. Mais ce qu'il faut bien mesurer, c'est que quand on regarde l'ampleur du défi, c'est énorme. Rien que de diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 au niveau de la France, et par 2 au niveau du monde. Le défi est énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à émettre. Et quand vous avez des mastodontes, genre les pays émergents, qui eux aussi ont envie de bien vivre, donc leur demande de pouvoir consommer et de pouvoir consommer plus, elle est légitime. On ne peut pas dire non à ça. On est dans un défi qui est inédit. Des fois, on voit par où on va passer. Donc effectivement, il y a des risques. Et donc, il faut bien comprendre que face à une telle difficulté, il y a et forcément des conflits. Vous ne pouvez pas avoir tout d'un coup claqué des doigts et dire « là, toute la société est d'accord pour y aller tous ensemble, main dans la main. Enfin, » On n'est pas chez Oui Oui, quoi. On est quand même plus de 7 milliards d'habitants. On n'est pas tout du tout d'accord. On n'a pas tous la même culture. On ne va pas tous à la même vitesse. On n'a pas les mêmes notions du temps. Tout le monde a envie de bien vivre. On est de plus en plus nombreux. Donc oui, c'est le bordel, j'ai envie de dire. Mais c'est le défi de la transition. La transition, c'est quoi? C'est on part d'un point A à un point B et on va voir comment on change. Ce point A, c'est une société, des sociétés qui sont fondées sur un modèle de développement basé sur les énergies fossiles, sur la consommation, et sur le mythe de la croissance. Et finalement, notre modèle occidental, il est répandu sur le monde, il fait modèle, même si aujourd'hui il est très largement contesté par certains pays et que ça pose des questions aussi en termes de paix dans le monde. C'est ce modèle-là qui est aussi au cœur de la contestation. Donc ce modèle de développement, il a montré ses limites. Il faut qu'on passe à un autre modèle de développement. Quand on change la transition, c'est de savoir passer par des étapes intermédiaire et de réduire progressivement l'incertitude pour arriver à un autre équilibre. Cet autre équilibre, on sait qu'il va falloir arriver à des sociétés qui sont décarbonées et passer de recours aux énergies fossiles à d'autres formes d'énergie qui sont beaucoup plus propres, donc notamment les énergies renouvelables. On se pose la question du nucléaire, je ne vais pas rentrer dedans. Mais donc ce cheminement-là, forcément, il y a des zones d'instabilité et ces zones d'instabilité et de conflit. Donc forcément, ça va passer par du conflit. Mais c'est pour ça qu'il y a un défi de connaissance, d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a une responsabilité à ne pas baisser les bras et à rester, pas optimiste, parce que optimiste, ça fait un peu, c'est vrai, oui, oui, mais convaincu et responsable. En fait, c'est un appel à la responsabilité de chacun des acteurs. Aujourd'hui, celui qui dit « moi, je ne savais pas », j'estime que cette personne n'a pas le droit de dire ça au XXIe siècle, ou de dire « moi, je ne peux rien faire », pareil, pour moi, on n'a pas le droit de dire qu'on ne pouvait rien faire.
Après, on peut voir aussi dans les actes. Hein, vous êtes, peut-être le savez-vous, dans la Biovallée.
Oui.
Bon, la Biovallée a des objectifs très ambitieux, par exemple, en matière d'isolation des bâtiments qui ont un certain âge. Je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'est beaucoup. Évidemment, il faut commencer à amorcer la pompe, lancer la machine. Mais je veux dire, si, par rapport à leurs objectifs à l'horizon 2020, on en est aux prémices infimes.
En effet.
Il faudrait passer la surmultiplier, quoi. Et comme vous l'avez dit au début, il est temps. Et ce temps d'y aller, je n'ai pas l'impression de le voir frémir encore.
C'est vrai, on en est encore à des bonnes pratiques, isolées. Il faut passer à la massification. La massification, ça demande une modification de l'organisation. C'est-à-dire que si vous voulez rénover de manière massive, il faut aussi qu'il y ait des professionnels formés partout, qui soient en mesure d'intervenir. Il faut qu'il y ait des moyens de financement, etc., qui soient mis en place. Et aujourd'hui, c'est vrai
Mais
que
voilà.
Dans la majorité des territoires, on n'en est pas encore là.
Là, on en revient à nos chers hommes politiques qui disent ce qu'ils veulent et puis qui, par exemple, moi, je sais pas, je lance une idée en l'air, orienter une fiscalité intelligente pour aider les gens à isoler leur maison. C'est pas très compliqué, ça mange pas de pain. Qu'attendent-ils ?
C'est la question que Thomas Piketty a posée à François Hollande récemment, je crois. La réforme fiscale, vous voyez bien ce que Ségolène Royal a fait de la taxe carbone. No comment. Je pense que les politiques sont bien dans ça, du défi aujourd'hui. Mais pour moi, les hommes politiques, là, qu'on a aujourd'hui, sont hérités du XXe siècle. C'est des mammouths. Aujourd'hui, on a une réelle difficulté à prendre le défi écologique à la hauteur, à l'ambition. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'hommes politiques qui... Je ne connais pas de parti qui soit réellement enfin qui réellement dit des choses intéressantes.
Peut-être les Verts, quand ils alertent l'opinion, ils sont même poil à gratter pour beaucoup.
Oui.
Mais c'est les seuls qui disent que le mythe de la croissance est dangereux. Que...
Oui, non, mais les Verts, oui. Après, je prenais ceux qui étaient qui ont été oui. ministres et qui tournent, qui sont sur la chaise musicale depuis quelque temps.
Enfin voilà, on va pas spéculer, se lancer ouais. dans des considérations politiques, mais néanmoins, ça commence par là. Hein. C'est eux qui montrent le là, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, qu'attendent-ils
hein, c'est eux chose. Qui donnent, c'est eux qui donnent la capacité. Mais c'est vrai qu'on a un système fiscal aujourd'hui qui marche complètement sur la tête. Et ça, ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte.
Et donc, voilà, il est temps de s'y mettre, les gars. Hein, on y
Exactement.
Va. Donc, je vous rejoins là-dessus. L'urgence climatique est là. Il faut contenir ce réchauffement à 2 degrés. Allons-y, allons-y. Il y a plein de gens qui seraient prêts à se lancer, sauf qu'effectivement, il y a besoin d'incitation, d'aide, de soutien, de compréhension, d'accompagnement. Et ça, il y a des associations comme la vôtre qui font un travail d'éclaireur. Mais il faut que ça suive derrière, quoi. Et voilà, pour l'instant, personnellement, je ne suis pas le seul à ne pas voir grand-chose venir.
Non, vous avez raison. On partage.
Marie Charron, quittons-nous sur une note d'espoir. Vous avez encore quelque chose à nous dire, je pense.
Oui, donc je vous disais que la conférence climat aura lieu en décembre prochain à Paris. Donc du coup, on a une année qui est placée sous le signe du climat, vu que c'est un rendez-vous assez important dans les COP. Effectivement, il est prévu que tous les États se mettent d'accord sur un programme à partir de 2020, pour réduire les émissions à partir de 2020. Et c'est la première fois qu'on a un accord qui prendra en compte tous les États. On a eu Kyoto avant, mais Kyoto, c'était les pays industrialisés d'un côté, les pays en développement de l'autre. Là, tous les États doivent faire des contributions pour lutter contre le changement climatique et s'adapter aux impacts. Et ça, c'est assez inédit et c'est pour ça qu'il y a une attention qui est très forte sur ce truc-là. C'est en France, c'est chez nous, donc du coup, il y a énormément d'initiatives qui sont lancées pour se mobiliser, dont certaines sur le territoire, et vous allez en entendre parler, il y a Alternatiba, par exemple, qui là est présent aux rencontres de l'écologie, qui est une des initiatives un peu qui redynamise, je dirais, la mobilisation citoyenne. Et nous, on a lancé un programme qui s'appelle Our Life 21, c'est nos vies au XXIe siècle. Et on propose aux gens d'imaginer ce que serait une vie réussie en 2050. Et quand on dit vie réussie, c'est une vie qui répond aux enjeux du climat, qui permettent de vraiment limiter les émissions de gaz à effet de serre et les consommations de ressources en général, puisqu'on a aussi des contraintes sur d'autres types de ressources, et qui soient aussi compatibles avec des objectifs sociaux, tout simplement, vu qu'on est aussi dans des sociétés où les inégalités s'accroissent, qui répondent aux rebonds démocratiques nécessaires et qui répondent à une demande de sens aussi, puisqu'il faut à un moment donné savoir dépasser la société de surconsommation dans laquelle on baigne. Et en fait, je me rends compte dans ces ateliers, quand on les anime, que c'est pas tant le résultat et ce qu'ils proposent qui est important, parce que c'est toujours difficile un peu de se projeter en 2050, mais le fait de faire discuter les gens, de les faire parler de leurs aspirations pour demain, c'est aussi un moyen de les rendre plus capables de s'approprier simplement l'avenir. Et je pense que face au climat, il faut se réapproprier une capacité d'agir, à la fois individuelle et collective. Cette capacité, elle passe par la connaissance, elle passe par l'organisation collective, la négociation. Je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à y aller. Et dans ces ateliers, ce qui ressort énormément, c'est l'aspiration à d'autres formes de valeurs, à d'autres formes de rapport à l'environnement, d'autres formes de rapport aux autres. Je pense que c'est par ces choses-là qu'on arrivera à relever le défi climatique.
Dernière question, Marie Charron. Auriez-vous un site internet sur lequel on pourrait trouver de la documentation à nous conseiller?
Oui, c'est http://www.association4d.org, avec notamment du coup l'onglet, le petit onglet à droite en haut, d'Our Life 21, et bientôt un blog, mais il n'est pas encore en ligne, on est un peu lent.
Marie Charron, merci d'être passée à RDWA pour parler de ces changements climatiques et des nécessaires adaptations que la société humaine devra faire pour survivre. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.
Merci Radio DIWA.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Okay. The bird.
L'interview du jour.